C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Face aux dégradations de l'environnement qui s'étendent, les tensions au sein de nos sociétés s'amplifient. Des associations de citoyens et des municipalités utilisent désormais l'arme juridique pour faire pression sur les États et les multinationales. Quand en 2017, la France a définitivement adopté la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, tout le monde a applaudi. Enfin, une avancée historique. Et c'est vrai que c'est une première mondiale. Désormais, les grandes entreprises françaises et celles présentes en France doivent publier chaque année un rapport de vigilance sur les risques d'atteinte grave aux droits humains, à l'environnement et à la sûreté des personnes que pourraient occasionner leurs activités. La France a donc innové et inspiré d'autres pays. Mais quel bilan peut-on faire de cette loi 2 ans après son adoption ? Nous en parlons avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Pour comprendre à quel point il est difficile pour les citoyens d'obtenir réparation contre les multinationales qui ont dégradé leur environnement, je vous propose tout d'abord d'écouter le témoignage de l'avocat Pablo Farardo. Il représente les 30 000 victimes équatoriennes qui ont subi pendant 20 ans les conséquences de l'exploitation du pétrole en Amazonie par la compagnie Texaco Chevron. 80 000 tonnes de résidus toxiques ont été déversées en plein cœur de la forêt primaire. Pablo Farardo a travaillé pour la compagnie. Pendant des années, il s'est payé des cours de droit pour devenir avocat et mener une action judiciaire pour obtenir des indemnités. Et ce feuilleton judiciaire n'est pas terminé, comme Pablo Farardo nous l'a expliqué lors de son passage à Paris.
Le dommage causé par Chevron a commencé il y a 52 ans.
Et ce daño aún persiste hasta la actualidad.
Et ce dommage est toujours présent, les conséquences sont toujours présentes dans l'eau, dans les sols qui sont pollués et qui causent la mort d'espèces animales, d'oiseaux et aussi d'êtres humains.
Et pour ce daño ambiental, esos desechos tóxicos que dejó Chevron.
En raison de ces déchets toxiques qui sont présents dans l'environnement, nous avons le taux le plus élevé de cancer en Équateur.
Et ce daño causado por Chevron persiste hasta el día de hoy.
Et donc ces dommages persistent aujourd'hui. Si on va dans n'importe quelle zone où Chevron a exploité le pétrole, on peut voir les déchets.
Alors vous avez attaqué Texaco en justice sur le sol américain où se trouve son siège social. Le géant Chevron qui a racheté Texaco en 2001 a obtenu la délocalisation de l'affaire en Équateur sous prétexte que c'est là que vous résidez, vous les plaignants. Et en 2011, la cour équatorienne de la province de Sucumbíos condamne la multinationale à une amende historique de 9,5 milliards de dollars de réparation. C'était une belle victoire, mais encore fallait-il faire appliquer cette décision.
Effectivement, nosotros planteamos nuestro juicio en el 93.
Oui, en effet, nous avons porté plainte en 1993 contre Chevron. En 2003, l'affaire a été transférée en Équateur et en 2011, nous avons eu la première décision de justice favorable aux plaignants et à la vie et défavorable à Chevron.
En esa condena, obviamente, Chevron tiene que pagar.
Et selon cette condamnation, Chevron doit payer 9 milliards et demi de dollars pour décontaminer la zone.
Fue apelada y ganamos en el segundo nivel en el 2012.
Et donc il y a eu un appel après cette première condamnation en 2012. Les plaignants ont une nouvelle fois gagné en appel. Ce jugement a encore été confirmé en 2013 et puis aujourd'hui il a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc c'est-à-dire que le plus haut niveau de la justice équatorienne a validé cette condamnation contre Chevron.
Donc ça, c'était en 2018, quand la Cour constitutionnelle de l'Équateur a validé définitivement ce jugement. Mais du coup, Chevron ne s'est pas arrêté là. Ils ont tenté des actions à travers des tribunaux d'arbitrage. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Puisque le 7 septembre dernier, il y a eu un renversement de situation. La Cour permanente d'arbitrage de La Haye a condamné l'Équateur à payer des dommages et intérêts à Chevron sur la base du traité de protection des investissements entre les États-Unis et l'Équateur. Avec quels arguments? Parce que c'est quand même un renversement de situation incroyable.
Hay tres líneas jurídicas diversas que
Chevron a suivi trois lignes juridiques distinctes. La première, ça a été une action contre nous menée aux États-Unis où ils ont invoqué la loi RICO pour essayer de nous faire passer pour des criminels et faire passer l'entreprise pour une victime.
Chevron construyó pruebas falsas.
Ils ont construit de fausses preuves pour faire croire qu'il n'y avait pas de contamination de l'environnement, mais une association de malfaiteurs qui essayait de leur extorquer de l'argent. Bien sûr, c'est faux. L'essentiel, c'est ce dégât de l'environnement qui est indéniable et qui est bien présent, mais pourtant, Chevron continue de nier l'évidence. Et un juge américain s'est laissé convaincre par Chevron et a conclu que toute cette affaire était une fraude. Cela ne nous empêche pas de poursuivre notre action et de faire appel à d'autres cours de justice pour faire reconnaître cette condamnation, comme nous le faisons actuellement au Canada, par exemple.
Mais en forme parallèle, Chevron.
Mais en parallèle de cela, Chevron a fait trois recours d'arbitrage contre l'État d'Équateur. Les deux premiers sont déjà terminés. Le premier a été favorable à l'Équateur, le deuxième à Chevron, et le troisième est toujours en cours. Et dans ce troisième arbitrage, nous n'avons jamais été partie prenante du litige. C'est entre Chevron et l'État équatorien. Et dans notre cas, c'est un litige privé entre nous, les plaignants et Chevron.
Sin embargo, en el laudo arbitral.
Et pourtant, dans le jugement rendu le 30 septembre 2018 par cette cour d'arbitrage, il est demandé à l'État équatorien d'annuler la condamnation qui concerne notre affaire à nous contre Chevron.
Eso es inaplicable. Eso es imposible ejecutarlo.
Et cela, c'est inapplicable parce que ça se fonde sur aucune norme et il n'y a aucune loi en Équateur qui permette d'appliquer une telle décision.
Qu'est-ce que cela signifie?
Cela veut dire qu'un tribunal d'arbitrage prétend être supérieur à une décision de justice rendue par l'État équatorien. C'est-à-dire que des tribunaux d'arbitrage demandent à l'État équatorien de violer sa propre constitution. Merci beaucoup.
Non, muchas gracias.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Bonjour Marie-Laure Guislain.
Bonjour.
Vous êtes responsable du contentieux Globalisation et Droits Humains pour Sherpa, une association créée justement en 2001 pour protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques. Alors, à travers le témoignage de Pablo Farrardo que nous venons d'écouter, on entend à quel point il est difficile pour de simples citoyens d'intenter une action judiciaire contre une multinationale. Ça fait des dizaines d'années. Alors, il parlait des tribunaux d'arbitrage. Rapidement, en quelques mots, c'est quoi un tribunal d'arbitrage ?
C'est un système de justice privée qui permet en fait d'attaquer un État pour un investisseur pour lui demander des dommages et intérêts lorsque son investissement, par exemple, est bloqué par une loi. Et donc, ces systèmes de justice privée permettent aux multinationales d'obtenir des millions de dommages et intérêts et de contredire, par exemple, un système de justice étatique. C'est la raison pour laquelle il y a une campagne qui a fait 500 000 signatures, d'ailleurs, des droits pour les citoyens et des devoirs pour les multinationales, pour demander justement à ce qu'il y ait un droit contraignant qui responsabilise les multinationales et pour justement empêcher ce système de justice privée.
Alors, intéressons-nous maintenant à cette loi dont je parlais sur le devoir de vigilance. C'est une loi qui est une réelle avancée pour laquelle vous vous êtes personnellement battu pendant 5 ans. Ça a été un vrai combat. En quoi c'est vraiment une avancée ?
Mais il faut savoir qu'une multinationale a des centaines parfois de filiales et sous-traitants à l'étranger dont elle bénéficie. Elle bénéficie de ses activités. La maison mère et les donneurs d'ordre récupèrent les bénéfices. Mais juridiquement, elle n'assume pas les conséquences des violations qui parfois sont extrêmement graves de l'environnement ou des droits fondamentaux des travailleurs, de ces filiales et de ces sous-traitants. Donc ce que demande la loi, c'est que ces maisons-mères et ces donneurs d'ordre prévoit des mesures très concrètes de prévention des risques de ces violations sur leur chaîne de production. Donc les associations comme les nôtres ou tout citoyen peut demander ensuite à ces multinationales un plan de vigilance qui contient des mesures concrètes et non pas seulement un rapport de plus de gestion pour cocher une case.
Alors est-ce que toutes les entreprises doivent aujourd'hui faire ce devoir, ce plan de vigilance ?
Non, et c'est le problème et c'est la prochaine étape, donc élargir les seuils, puisqu'aujourd'hui seules les multinationales qui ont au moins 5000 salariés avec leur filiale en France ou 10 000 dans le monde sont concernées par cette loi. Donc l'idée avec les associations partenaires, c'est de donc élargir ce seuil. Nous allons d'ailleurs avec le CCFD publier un site internet avec la liste des entreprises qui sont concernées et ensuite une analyse des plans de vigilance pour tenter justement la prochaine étape de faire élargir les seuils.
Oui, parce qu'on vous avait reçu par exemple dans une précédente émission, on parlait des conséquences de la fabrication des téléphones portables pour Samsung
hein,
avec
d'ailleurs,
des conséquences importantes, notamment pour concernant le travail des enfants
en Chine.
Et voilà, et Samsung aujourd'hui ne tombe pas sous cette loi.
Tout à fait. Samsung France ne tombe pas sous le coup de cette loi, comme beaucoup d'autres entreprises qui pourraient violer les droits humains à l'étranger.
Donc cette loi exige pour les entreprises dont vous parliez de publier un plan de vigilance pour prévenir donc les risques en matière d'environnement, de droits humains, mais aussi de corruption sur leurs propres activités. Alors ça, c'était en 2017. 2 ans plus tard, aujourd'hui, où en est-on ?
Les plans sont extrêmement décevants puisque les multinationales sont habituées à faire des rapports extra-financiers très légers. Là, précisément, on s'est battu dans cette loi historique pour qu'elle change les choses et que ces plans ne soient pas justement juste un rapport de plus, mais qu'elles permettent réellement une prévention des violations des droits humains. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire appliquer par le pouvoir judiciaire cette loi en demandant à certaines entreprises d'améliorer leur plan de vigilance ou même d'engager la responsabilité de certaines entreprises qui, du fait de l'absence de plan ou d'une mauvaise qualité du plan, seraient responsables de dommages à l'étranger.
Donc ça veut dire de potentiels procès à venir.
Tout à fait.
Nous allons en parler. Bonjour Paul Moujol.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en droit, membre de l'association Notre Affaire à Tous, qui s'est fait connaître avec 3 autres associations quand vous avez décidé, au nom de l'intérêt général, d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques. Une démarche qui a reçu, on s'en souvient, le soutien par le biais d'une pétition de plus de 2 millions de Français, pétition toujours en ligne d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Et en quoi cette loi sur le devoir de vigilance est une avancée pour vous ?
Alors la loi sur le devoir de vigilance est une avancée également pour nous, parce qu'on l'a utilisée notamment avec Sherpa et 13 collectivités territoriales pour interpeller Total en octobre 2018, pour lui rappeler que son premier plan de vigilance de mars 2018 n'est pas conforme aux exigences de la loi, parce que Total n'a pas du tout inclus le changement climatique dans son premier plan de vigilance.
Alors nous allons revenir sur le cas de Total en particulier dans quelques minutes, comme ça vous verrez dans quel contexte peut être évoquée cette loi, mais nous en parlerons juste après une pause musicale en exclusivité sur RFI. Voici la première chanson de l'auteur, compositeur et interprète Sganarell. Ça s'appelle Pièce, tendez l'oreille.
Dans le dropper.
La maille, ce bonheur dont la soif mène au malheur. Tous ces billets, ce sont des leurs. Et toi, tu mords, ça me fait peur. Tu ne vois pas plus loin que le fond de ta poche. La monnaie compte plus que tes proches. Tu comptes aux frères, c'est foutu Porsche. Alors approche, garçon, Sganarell a quelque chose à te dire. Je ne suis pas là pour te pourrir, mais tout le monde voit que tu chavires dans ce cercle vicieux. Tu es la prunelle de tes yeux. Tu dis suivre la parole de Dieu, mais y'a que là, tu ne prends qu'elle des pieux. Oh, toi. Jeune dépensier, aveugle, ouvre tes yeux. Toi, t'as même le droit de fermer ta gueule, puisque tu nous bassines avec l'argent de ton daron. Mais sois capable un jour de rendre la même à ton garçon. Car oui, un jour il y en aura moins, et puis un jour il y en aura plus. Tu devras partir de très loin, et pour une fois bouger ton cul. Car avant tout était facile, mais tout ça ne tient qu'à un fil coupé ou non par une des trois. Avant que tu puisses dire une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois.
Une, deux, trois.
aboies. Et ton fils te dit papa s'il te plaît prends-moi dans tes bras. Mais tu portes déjà la honte et tu sens les larmes qui montent. Aujourd'hui tu vagabondes comme un rat nauséabonde. Tu ronges le passé puisque t'as perdu ton futur. Pour le nourrir t'as pas assez dire que tu rêvais d'une voiture. Oh toi, jeune dépensier, aveugle, ouvre tes yeux. Toi, t'as même le droit de fermer ta gueule puisque t'as liquidé le porte-monnaie de ton daron. Mais aujourd'hui t'as plus un rond et tu fais pleurer ton garçon. Donc un jour tu prends la fuite sans même penser à la suite. T'abandonnes ton gamin alors que lui te tend la main. Il n'aura connu qu'un lâche, pas un père à qui on s'attache. Lui pourtant il avait des rêves mais en partant tu lui enlèves. T'étais son seul point d'accroche, maintenant il est seul. C'est moche, tout ça parce que t'as rien fait lorsque tout était parfait. Mais y'a plus de retour en arrière, maintenant t'es dans ton cimetière. Il attend ton retour mais t'as mis fin au compte à rebours. Oh toi, jeune dépensier, aveugle, ouvre tes yeux. Toi, t'as même le droit de fermer ta gueule puisque tu as détruit la vie de ton petit garçon. Étant ruiné, suicidé, enterré, c'est con. Oh toi.
Pièce de Sganarel en exclusivité sur RFI et en libre écoute sur Deezer.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales adoptée en 2017 en France ou comment demander réparation auprès des entreprises qui polluent, car la défense de l'environnement implique dans certains pays même de risquer sa vie. Selon le rapport Global Witness, 2018 a été la plus meurtrière pour les défenseurs de l'environnement. 207 personnes ont perdu la vie et ce ne sont que les meurtres recensés. Le chiffre réel, précise le rapport, est sans doute bien plus élevé. Les combats les plus risqués sont ceux menés contre les industries extractives, les industries agroalimentaires, les exploitations forestières, le braconnage et les barrages. L'association Les Amis de la Terre mène depuis des mois avec d'autres associations une campagne soutenue par 200 ONG européennes intitulée « Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales ». Et dans ce contexte, elle a fait venir à Paris des défenseurs de l'environnement, notamment du continent africain, car toujours selon le même rapport, sur 19 cas d'assassinats recensés, 12 ont eu lieu en République démocratique du Congo. Bonjour Florence Sitouaminia.
Bonjour, merci.
Depuis mars 2016, vous coordonnez le CREDO, le Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme, basé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Quel est son rôle ?
Le CREDO, à soi, c'est une ONG qui est... milite pour la défense, la promotion et la protection des droits humains et droits environnementaux. Et pour cela, il accompagne les communautés locales dans la défense de leurs droits et dans le cadre du plaidoyer.
Alors quand je dis que défendre l'environnement, ça peut être parfois au péril de sa vie, pour vous, ça résonne ? Ça veut dire quelque chose en RDC ?
Oui, effectivement, parce que personnellement, je suis défenseur des droits environnementaux et je connais les risques multiples dont fait face tous les défenseurs des droits environnementaux.
Vous-même, vous subissez des pressions ?
Oui, quelquefois. Et moi et mes collègues, nous avons subi plusieurs fois des menaces. On peut que même certains ont été obligés de se déplacer, donc de changer de ville parce qu'il y avait des menaces verbales, des messages téléphoniques qui leur faisaient peur. Et ils ont été obligés de changer de ville pour se protéger un peu et attendre la calmie.
Alors la République démocratique du Congo fait partie des pays les plus pauvres et pourtant c'est l'un des pays les plus riches en termes de ressources. Et c'est là où votre vigilance s'aiguise parce que cette extraction des ressources ne profite pas aux populations et se fait au détriment de l'environnement. Alors comment est-ce que vous essayez d'intervenir dans ce contexte en plus de l'est de la RDC qui est une zone très conflictuelle ?
Et c'est là le gros même de notre engagement. Notre engagement est motivé par le fait que quand nous essayons d'observer tout ce qui se passe autour de l'extraction des ressources naturelles, notamment le minerai, le pétrole, nous réalisons que cela ne bénéficie pas du tout aux communautés locales, Mais en même temps, cela constitue des sources de violations des droits humains. Parce que une fois l'extraction ou l'exploitation du pétrole et pollue l'environnement, déjà c'est une violation des droits humains parce que tout homme a droit de vivre dans un environnement sain.
Et ça, c'est le décalage entre la théorie des textes et la réalité du terrain que l'on voit partout dans le monde. Sur quel dossier concret vous vous battez au Credo? Parce que votre travail, c'est vraiment d'archiver très méticuleusement, affaire par affaire, dans des dossiers, ce qui se passe sur le terrain. Donc, donnez-nous un exemple concret d'un combat que vous menez en ce moment.
Oh oui, vous avez bien dit à ce moment. Il y a autant de combats, mais pour l'instant, nous sommes en train d'éliter, ensemble en coalition avec d'autres organisations environnementales. Nous sommes en train de lutter contre l'exploitation du pétrole dans les aires protégées surtout. Parce que la loi congolaise défend l'exploitation du pétrole dans les aires protégées. Et même les normes internationales interdisent cette pratique d'exploitation dans les aires protégées. Et c'est là la lutte que nous menons depuis 2010, où il y avait déjà les travaux de l'entreprise Soko qui voulait exploiter le pétrole dans les parcs nationaux de Virunga. Et la lutte a continué parce qu'en 2014, Soko s'est désengagé, mais nous avons réalisé qu'il y a aussi Total qui vient de recevoir une licence d'exploration dans le bloc 3. Or, une partie du bloc 3 se trouve dans le parc national de Virunga. Bien que Total nous a signifié dans une lettre que nous lui avons adressée, nous l'avons adressée à la commission éthique de Total, et nous a signifié en répondant qu'il ne va pas exploiter le pétrole dans la partie du parc national de Virunga.
Alors, il faut rappeler juste que le parc des Virunga, c'est 7800 km² niché au cœur d'une des régions les plus densément peuplées et les plus pauvres d'Afrique, donc en RDC. C'est un habitat vital pour de nombreuses espèces protégées, comme les hippopotames, les éléphants et des centaines de gorilles de montagne. Et du coup, c'est vrai que Total dit que le programme d'exploration exclut la zone du parc national des Virunga. C'est ce qui est écrit sur leur site internet et c'est comme ça aussi qu'ils communiquent vis-à-vis des journalistes.
Oui, mais en même temps, notre question était de dire, est-ce qu'il y a possibilité de retenir ou d'arrêter la pollution? C'est ça la question. Donc, quels sont les engagements, quelles sont les garanties qu'ils donnent que la pollution ne va pas atteindre le parc de Virunga, mais aussi la communauté qui vit autour de leur site d'exploitation ou d'exploration. Est-ce que cette communauté est déjà garanti que la pollution ne va pas entamer leurs droits?
Et alors, est-ce que vous arrivez à vous faire entendre entre l'État congolais, qui a intérêt à ce que cette exploitation ait lieu, parce que ça ramène de l'argent au pays, et on sait en général où va cet argent, plus souvent d'ailleurs à l'État qu'aux communautés, mais c'est un autre dossier dont vous discutez certainement. Mais est-ce que vous arrivez à exister entre l'État et la multinationale, à vous faire entendre?
Nous serons rassurés que nous sommes entendus quand nous allons réaliser que le gouvernement tient compte de nos recommandations, de nos réclamations, ou alors que le multinational aussi tient compte de ce que nous sommes en train de réclamer vis-à-vis du respect des droits humains. Donc c'est là que nous allons dire que nous sommes entendus. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne sommes pas encore entendus parce que notre avis serait de voir annuler la licence d'exploitation pour ne pas entamer les écosystèmes du parc. Mais également, il faudra bien vérifier si réellement les droits humains seraient garantis dans les cas où il y aurait exploitation ou exploration.
Merci Florence Sitouaminia.
Je vous remercie.
Bonjour Juliette Renaud.
Bonjour.
Vous êtes chargée de campagne au sein de l'association des Amis de la Terre. La semaine dernière, avec Florence, vous avez justement assisté à l'assemblée des actionnaires de Total. Comment cela s'est passé?
Alors, déjà, ça a été le premier combat, ça a été de pouvoir rentrer dans l'assemblée générale parce qu'il y avait un niveau de sécurité complètement disproportionné avec une quinzaine de quarts de CRS pour protéger les actionnaires de Total qui avaient été d'être traumatisé par l'action de Greenpeace l'année dernière. Et alors, une fois dedans, bon, c'est toujours un univers un peu particulier, hein, parce qu'ils se gargarisent pendant tout un certain temps sur la beauté de leurs investissements, etc. Alors malheureusement, Florence n'a pas pu interpeller le PDG de Total comme c'était prévu. Par contre, on était aussi là-bas avec une partenaire des Amis de la Terre Mozambique qui, elle, a pu interpeller sur la nouvelle acquisition de Total, qui est un énorme champ gazier au Mozambique, qui est à la fois une bombe climatique, mais qui menace aussi la biodiversité locale, mais qui a surtout d'énormes impacts sur les communautés avant même que le projet commence, avec une forte militarisation, des déplacements de population, etc. Et donc, finalement, on voit que Total continue à se développer massivement en Afrique.
Alors, pour revenir au cas de la RDC, hein, depuis, la compagnie Total a annoncé qu'il n'interviendrait pas dans le parc des Virunga. Pour vous, est-ce que c'est une victoire due à la mobilisation des ONG ?
Alors, c'est clairement, oui, Total qui avait déjà annoncé, en effet, il y a quelque temps, qui s'était pas encore retiré du bloc, qui ne forerait pas dans les Virunga. C'est clairement un résultat de la pression de la société civile, tant au Congo, mais aussi de la société civile internationale. Après, il y a toujours aussi des éléments économiques qui font que c'est seulement aujourd'hui qu'ils se sont vraiment retirés du bloc. Et ce qui n'est pas clair, c'est est-ce qu'ils se sont retirés aussi peut-être pour aller un petit peu plus au nord, où il y a aussi d'autres blocs au Congo, ou de façon plus générale, comme je disais, Total a d'autres projets dans la région. Donc c'est un petit peu un jeu d'échecs entre les différentes compagnies, où ils voient où est-ce que c'est à la fois le plus rentable d'investir et le plus factice par rapport à la situation locale, que ce soit des gouvernements en place ou de la résistance aussi des communautés.
Merci beaucoup Juliette Renaud, vous étiez en ligne avec nous depuis Genève. Alors je précise que j'ai invité le groupe Total à participer à cette émission, mais personne n'était disponible pour venir répondre à nos questions, ce que je regrette. Paul Mougeol, à la veille de l'Assemblée Générale de Total dont nous venons de parler, c'était donc la semaine dernière, votre association, Notre Affaire à Tous, avec 350.org, les Amis de la Terre France et le soutien de Sherpa, des Écomères, d'Attaque et de l'Observatoire des Multinationales, vous avez publié un rapport décryptant la stratégie climat du groupe pétrolier qui a pour titre, un titre qui en dit déjà long, la stratégie du chaos climatique. Alors en gros, que dénoncez-vous à travers ce rapport ?
Alors oui, on analyse une fois la stratégie climat totale. Alors premièrement, on a découvert qu'en fait la stratégie climat totale est une façade. Total s'appuie en réalité sur un scénario de l'Agence internationale de l'énergie qui mène à un réchauffement de plus de 3 degrés. C'est donc un certain double discours, puisque c'est dévoilé dans les annexes comptes consolidés de l'entreprise, mais cela n'est pas clair pour les parties prenantes qui s'intéressent à la stratégie climat de Total. C'est-à-dire, en fait, dans tous les documents qui ont trait au climat, cette information n'est pas dévoilée.
Donc, tout le monde pense que leur objectif est, comme tout le monde, rester en dessous d'un réchauffement.
Voilà. Donc Total a aussi déclaré avoir une ambition cohérente avec l'objectif de degrés. Et cela n'est donc pas le cas, puisque Total investit massivement et quasiment exclusivement dans les hydrocarbures. Mais même si Total mettait en œuvre ses mesures d'atténuation du changement climatique de manière sincère, Total n'arriverait pas à limiter le changement climatique à en dessous de 2 degrés. Alors ça, on l'a démontré également. Et donc Total s'expose à des risques juridiques et financiers qui sont assez importants.
Alors est-ce qu'on peut rappeler ce que cette entreprise représente en termes de nuisances pour le climat à l'échelle de la planète ?
Alors Total est implanté dans 130 pays, ils ont 100 000 employés et ils sont à la source de 0,9% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale chaque année depuis l'époque pré-industrielle. Donc ils ont une responsabilité certaine et ils mettent en vente donc leurs produits et qui contribuent largement au changement climatique.
Alors Marie-Laure Guislain, ce rapport est la suite des rapports de force engagés avec la compagnie pétrolière depuis octobre 2018.
Oui, nous avons déjà interpellé l'entreprise justement sur l'absence de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique dans le premier plan de vigilance publié par Total.
Mais alors, est-ce que ce plan de vigilance implique les changements climatiques, plan de vigilance qui est donc imposé désormais par cette nouvelle loi qui date de 2017 sur le devoir de vigilance ? Parce que si on parle des impacts des entreprises, est-ce que l'impact sur le climat est un impact direct ? Est-ce qu'on peut le comparer à une pollution comme la marée noire dont on parlait
bien
en
sûr.
Début d'émission ?
Oui, bien sûr, puisque la loi parle d'impact sur les droits humains de façon générale, les libertés fondamentales, et Total elle-même a reconnu qu'effectivement le climat devait figurer dans le plan de vigilance.
Alors il y a 13 collectivités et 4 associations qui appellent la multinationale dont les émissions de gaz à effet de serre, hein, vous le disiez, représentent à elles seules plus des 2/3 de celles de la France à agir. Alors est-ce que Total pourrait faire l'objet du premier procès climatique intenté en France contre une grande entreprise pétrolière, Paul Mougeol ?
Alors, nous avons interpellé Total en octobre 2018. Le directeur juridique nous a répondu en janvier 2019. Ils ont depuis élaboré un second plan de vigilance qui est toujours insuffisant. Malheureusement, je pense que il n'y a qu'un pas vers l'action en justice contre Total.
Donc, c'est quoi l'agenda ?
Nous avons une réunion qui est prévue avec la direction du groupe et notamment le PDG Patrick Pouyanné très prochainement. Et l'agenda, donc s'il ne donne toujours pas satisfaction à nos exigences et aussi s'il ne respecte toujours pas la loi sur le devoir de vigilance et l'accord de Paris, il est très probable que nous les mettions en demeure juste après.
Et là, on ne parle que climat, parce que Marie-Laure Guislain, avec Sherpa, vous avez plusieurs dossiers en cours contre Total concernant davantage les droits humains.
On a plusieurs signalements de violation des droits humains et c'est aussi ce qui est demandé aux multinationales à travers cette loi. Le climat, évidemment, fait partie des droits humains à respecter, mais malheureusement, ce qu'on observe dans ces pratiques de multinationales, notamment pétrolières, c'est la violation aussi sur place, les grosses pollutions, les fuites de pétrole, mais aussi les violences sur les riverains des sécurités privées et enfin la violation des droits des travailleurs.
Alors, il y a de nombreuses affaires en cours, notamment la plainte déposée par 10 ONG et syndicats français et camerounais contre le groupe Bolloré au sujet des activités de la Socapalm, une plantation de palmiers à huile au Cameroun. Nous en parlons après une pause musicale avec une autre exclusivité. Décidément, on vous gâte aujourd'hui dans C'est pas du vent. Une autre exclusivité venue de Côte d'Ivoire cette fois, Eora et la Green Team Family, des jeunes artistes ivoiriens engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Cet hymne à la nature, baptisé Le Monde en Vert, a pour objectif de faire la promotion du grand forum écologique Top Green Actions for Africa qui est prévu en février 2020 à Abidjan.
Et Dieu créa le monde en vert.
Je vois un monde en vert qui n'a plus de repères. Je vois un monde en vert revenu en désert. Je veux le monde. Un monde à l'envers, je veux un monde en vert, pas un monde de travers. Je vois un monde en vert qui n'a plus de repères. Je vois un monde en vert devenir un désert. Je veux un monde en vert, pas un monde à l'envers. Je veux un monde en vert, pas un monde de travers.
Réchauffement climatique, vision symptomatique, tremblement sismique. Libérer les caniveaux, ce sont les seuls canaux et non des caveaux. Dans les rues d'Afrique, jonché de plastique, maladie endémique, aux solutions drastiques.
Je veux le monde en vert, qu'il ne soit pas un enfer. Je veux le monde en vert, une merveille de l'univers. Je vois le monde en vert, pas un monde de pervers.
La flore qui régresse, la faune en détresse. Pitié pour les animaux, ne les faites pas la peau. Ceci n'est pas beau, arrêtez-la. Il le faut.
Rivage sous l'érosion, désert en progression. Partout la pollution, dans nos populations. SOS la planète, qui invite la sonnette.
Disons-le à l'unisson,
avec plein d'affection. Protégeons notre bien à tous.
Je vois le monde en vert, synonyme de la vie. Je veux le monde en vert, vraiment qui me ravit. Sauvons le monde en vert, symbole de la nature. Tout le monde en vert, avec un esprit mature.
Pour que le monde soit vert, prenons soin de la nature.
La Grim Team Family dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons du devoir de vigilance des multinationales aujourd'hui avec nos invités. Marie-Laure Guislain, je rappelle que vous êtes en charge des contentieux au sein de l'association Sherpa qui vient de porter plainte avec d'autres ONG et syndicats français et camerounais contre le groupe Bolloré. Alors je précise là aussi que j'ai invité Olivier Baratelli, l'avocat du groupe Bolloré, à participer à cette émission. Il ne m'a pas répondu. Alors expliquez-nous pourquoi vous portez plainte aujourd'hui.
En 2010, des riverains et des travailleurs se plaignent auprès de Sherpa de violations de droits humains sur place. Après une mission, Sherpa et avec d'autres organisations déposent une plainte devant un mécanisme de l'OCDE qui constate de gros problèmes sociaux, environnementaux, fonciers et des violences sur les riverains. Suite à ce rapport donc, de ce mécanisme de l'OCDE, le groupe Bolloré et Sherpa tombent d'accord sur un plan d'action, cette fois, un plan de vigilance, avec des mesures très concrètes pour remédier à ces problèmes.
Donc ça, c'était en
2013. Les riverains et les travailleurs fondent vraiment leurs espoirs sur ce plan d'action qui pourrait répondre donc à leurs revendications et indemniser les gens collectivement et individuellement pour les terres dont ils se sentent spoliés. Malheureusement, en 2014, Bolloré nous dit que tout est fini, le plan ne sera pas appliqué comme il l'avait prévu.
Pourquoi ?
Il nous dit que Socfin, une des sociétés de son groupe, ne veut pas appliquer le plan. Alors, ce qu'on demande à Bolloré, c'est de bien vouloir respecter ses engagements, quand bien même il estimerait, chose que nous réfutons, ne pas avoir de contrôle capitalistique sur Socfin, puisque, comme vous et moi, le groupe peut s'engager pour une société sur laquelle il n'a pas de pouvoir. Donc, à partir du moment où on s'engage formellement avec une autre partie, on forme un contrat et donc on est tenu de le respecter. C'est ce que nous sommes forcés aujourd'hui de demander au pouvoir judiciaire, puisque les mécanismes de l'OCDE aujourd'hui sont insuffisants. On demandait à ces multinationales de respecter le plan. Malheureusement, il y a toujours un refus d'application. Et donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est le mandat de Sherpa, c'est se tourner vers le droit pour faire appliquer ce plan et ordonner l'application de ce plan à Bolloré.
Alors c'est vrai qu'Olivier Baratelli, l'avocat de la société Bolloré, affirme que l'entreprise ne s'est jamais engagée à un suivi sur place, ce qui lui aurait été impossible du fait de sa simple détention capitalistique de 9,35% seulement du capital de la Socapalm.
Alors, l'excuse typique de la dilution des multinationales, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette loi a été adoptée. Mais là, on est dans un cas très précis où l'entreprise ne peut même pas se cacher derrière cette dilution capitalistique envers une filiale, puisqu'elle s'est engagée noir sur blanc dans un plan d'action. Donc, il y a une clause très précise qui précise que les parties s'engagent solidairement à appliquer ce plan d'action.
En résumé, Marie-Laure Guislain, qu'est-ce que vous dénoncez sur place, parce qu'on n'a pas réussi là à joindre pour des questions de ligne téléphonique les représentants sur place.
Donc les riverains dénoncent principalement des problèmes fonciers, des problèmes de pollution, des problèmes d'accès aux services de mission de service public, des violences qui sont exercées contre eux par les entreprises de sécurité et aussi mais surtout des grosses violations de droits des travailleurs, notamment aussi des problèmes de logement indécent. Nous avons pu avoir récemment les photos et les vidéos de ces logements qui auraient dû être rénovés d'après le plan d'action et d'après les entreprises, mais malheureusement, les gens vivent toujours dans ce qu'on peut appeler des logements qui seraient incompatibles avec la dignité humaine.
Alors que va-t-il se passer dans les semaines qui viennent et est-ce que la loi justement sur le devoir de vigilance peut être utile dans ce cas ?
Alors là, comme il y a un engagement ferme, ce n'est pas ce fondement juridique qui a été utilisé. La loi devoir de vigilance pourrait aider effectivement dans ce type de cas. Mais là, comme il y a un engagement de droit mou, un plan d'action, nous estimons que cet engagement est un contrat et qu'il doit donc être appliqué en tant que contrat. C'est la raison pour laquelle on en demande l'exécution forcée. Puisque les multinationales ne devraient plus profiter d'une image vertueuse en publiant des engagements éthiques et ne pas assumer les conséquences juridiques de leurs violations.
Alors, la Soca Palme est donc une plantation de palmiers à huile, une culture souvent montrée du doigt pour son impact sur l'environnement. Nous sommes en ligne avec Alain Rival, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur régional du CIRAD pour l'Asie du Sud-Est et correspondant de la filière palmiers à huile. Alors, quel est l'impact de la production d'huile de palme sur la déforestation ?
C'est un vaste sujet. Il faut bien savoir de quels chiffres on parle. L'impact global au niveau mondial, il est entre 4 et 5 %. Ce n'est pas zéro. C'est suffisamment pour que ce soit préoccupant.
Mais c'est très, très faible comme chiffre ce que vous donnez, puisqu'on lit souvent dans la presse 40 %.
Alors, c'est 40 % de la déforestation qui peut être attribuée aux palmiers. C'est le pourcentage par rapport aux autres productions agricoles. Ce n'est pas la déforestation globale. Il y a des confusions dans les chiffres. Il nous a obligés à un peu mettre au point ces données et à publier un article dans The Conversation l'an dernier où on déchiffre un peu ces systèmes de données qui sont repris sans être critiqués et rarement vérifiés.
D'où l'importance de vous donner la parole. Alors, est-ce que l'Afrique est, après l'Asie, comme on le lit aussi souvent, le nouvel Eldorado de l'huile de palme ?
Alors, oui et non. Oui, pas autant qu'on l'a espéré ou publié, parce que les chiffres ont été rapidement divisés par 10. C'est vrai que face à la raréfaction des terres disponibles et à la pression montante des ONG qui font leur travail de vigilance sur la protection des hotspots de biodiversité, le palmier n'a pas beaucoup de chance. Il est obligé de cohabiter avec les derniers hotspots de biodiversité, que ce soit ici à Bornéo, ou en Amazonie, ou bien dans le bassin du Congo. Donc ce devoir de vigilance, il est très utile pour encadrer le développement du palmier en Afrique, comme en Asie du Sud-Est d'ailleurs. Donc il a conduit aussi les compagnies à investir sur les territoires africains avec beaucoup de promesses. Ça s'est avéré beaucoup plus difficile, d'abord parce que la législation est en place, qui n'était pas le cas lors du boom du palmier des années 60-70. On a des tables rondes de partenaires comme RSPO, les ONG, encore une fois, font leur travail. Les gouvernements aussi sont alertés, donc on est dans un contexte de régulation plus stricte aussi en Afrique. Et puis, il y a des spécificités africaines sur le droit du sol, par exemple, qui rendent délicates des opérations ou que les compagnies asiatiques, qu'elles soient multinationales ou nationales ou transnationales asiatiques, hein, parce qu'il y a un nouveau capital asiatique qui est très actif dans le secteur du palmier. Des sociétés comme Olam sont là au Gabon. Enfin bon, on n'a pas affaire qu'à des multinationales héritières de l'histoire coloniale où c'était l'Europe qui exploitait le palmier à huile.
Et est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui le rôle des multinationales soit controversé, souvent pointé du doigt par les ONG pour leur impact sur l'environnement ?
Oui, c'est un peu la face émergente de l'iceberg. C'est, tout le monde connaît Bolloré, tout le monde connaît Nutella, tout le monde connaît Kit Kat. On bâtit, les ONG internationales bâtissent leur campagne sur des produits connus par le grand public. C'est assez astucieux, mais ça biaise un peu le débat parce que les grandes compagnies dans le secteur du palmier à huile, c'est 40% de l'activité. 60% du palmier sont exploités par des petits planteurs qui sont beaucoup plus difficiles à cibler, à cerner et à concerner par les transferts de technologie, puisque nous, CIRAD, on est un institut de recherche agronomique, donc on est mandaté pour faire ce transfert de technologie. Et on a plus de difficultés à le faire dans une nébuleuse de petits planteurs non souvent peu organisés ou pas organisés qu'avec une société privée qui a des objectifs et qui met à disposition des surfaces homogènes et en grande quantité.
Marie-Laure Guislain, au-delà de la plainte contre le groupe Bolloré, de la possible plainte contre le groupe Total, vous défendez un projet de traité sur les multinationales et les droits humains au niveau européen et même au niveau des Nations Unies avec plusieurs ONG ?
Oui, tout à fait. Alors qu'on nous prenait pour idéalistes en 2012, on se rend bien compte que seul un droit contraignant peut changer les choses sur place. Les choses bougent d'ailleurs en France avec la loi sur le devoir de vigilance, mais aussi par exemple cette mise en examen historique de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité l'année dernière que nous avons obtenue. Donc certains pays européens nous imitent. Nous sommes donc Sherpa et d'autres ONG dans des coalition européenne et internationale pour faire adopter au niveau européen et international un tel droit contraignant qui demande aux multinationales de respecter les droits humains sur toute leur chaîne de production.
Donc il y a beaucoup de pays qui sont prêts à s'engager là-dessus aujourd'hui.
Il y a plusieurs pays qui commencent à nous imiter. En Allemagne, il y aurait une loi qui devrait être adoptée. En tout cas, il y a eu un leak en ce sens. Aux Pays-Bas, dans un secteur particulier. En Suisse, il y a une initiative qui va devoir être votée aussi. Donc voilà, il y a des choses qui bougent et on voudrait aussi au niveau européen un règlement ou une directive qui ne soit pas sectorielle mais plus générale comme la loi sur le devoir de vigilance et le traité ONU est en cours de négociation.
Paul Moujol, avec oui. Notre affaire à tous, vous soutenez tout cela j'imagine ?
Oui, tout à fait. Surtout que l'accord de Paris, donc, qui vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et à poursuivre les efforts pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, n'est seulement contraignant que pour les États. Donc nous avons besoin à l'échelle internationale et européenne d'un traité, d'un accord pour lier les entreprises multinationales pour qu'elles respectent également cet accord de Paris via le devoir de vigilance.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur www.rfi.fr, onglet émission, ou sur l'application Plur Radio. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Excuse me, mister. Do you have the time? So important that it's standing still. Excuse me, mister, won't you lend me your ear? Are you not only blind, but do you not hear? Excuse me, mister, but is there natural oil in the sea?